sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Madame la directrice de cabinet représentant le président de la République, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le sénateur, Monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, Monsieur le préfet de région, Monsieur le chancelier, Mesdames et Messieurs les secrétaires perpétuels, Monsieur le recteur de l'Académie de Paris, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je déclare ouverte la séance solennelle de rentrée des cinq académies qui se tient selon l'usage le mardi le plus proche du 25 octobre, jour anniversaire de la création de l'Institut en 1795. La tradition et les statuts de l'Institut de France qui se composent des cinq académies veulent que pour notre séance commune, le bureau de l'Institut choisisse un thème de réflexion développé par les délégués de chaque académie et qui nous en feront découvrir les différents aspects. Le thème retenu cette année est « Le passé est-il passé ?» Ainsi interviendront successivement M. Georges-Henri Soutou, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, pour la lecture de son discours intitulé « Le passé entre obsession et oubli. Monsieur Paul Andreu, délégué de l'Académie des Beaux-Arts, pour son discours intitulé « Un passé encombré et fragile ». Monsieur Thibaut Damour, délégué de l'Académie des Sciences, pour son discours « Le temps passe-t-il ». Monsieur Bernard Potier, délégué de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, pour son discours « Les mémoires du présent ». Monsieur Philippe Bossan, délégué de l'Académie française, pour son discours intitulé « Le passé est-il présent ?». Le thème de cette année, « Le passé est-il passé ?», a de profondes résonances dans l'ordre philosophique comme dans l'ordre scientifique. La question posée met en jeu la mémoire des hommes et celle des civilisations. La première concerne la langue. Il en sera question au cours de cette séance. La seconde fait appel aux disciplines historiques et particulièrement à la présence matérielle du passé que met au jour l'archéologie. Permettez à l'archéologue que je suis d'en dire un mot très bref, car il n'en sera plus question aujourd'hui. Les traces matérielles du passé nous parlent de plus en plus clairement grâce au progrès des sciences de la Terre et de la vie. On a fait appel depuis longtemps pour les datations aux mesures du carbone 14, mais aussi d'autres corps simples avec des méthodes qui n'ont pas cessé de gagner en précision. Les restes végétaux qui ont été interrogés dans la même perspective, comme c'est le cas pour la dendrochronologie, mais nous fournissent en même temps des informations sur l'environnement, les cultures et la mise en valeur du territoire. Un autre exemple, l'inscription dans l'espace de l'occupation humaine et divine fournit un autre exemple de renseignement. Ainsi, on a constaté qu'un grand nombre de sanctuaires du Proche-Orient sont tournés vers l'est et que leurs portes s'ouvrent dans cette direction. Au moment de l'ouverture du temple, qui est un rite quotidien essentiel dans les différentes régions autour de la Méditerranée et au Proche-Orient, cette orientation permet à la lumière de pénétrer jusqu'au fond du temple et d'illuminer les représentations divines qui sont au centre du culte. Les petites variations que nous constatons dans cette orientation semblent correspondre, dans certains cas, au lever du soleil à une date précise, désormais fixée dans la mémoire par le rituel. C'est celle d'une fête majeure et sans doute aussi celle de la fondation du monument. On a pu relever ainsi à Petra l'insertion dans l'espace d'une centaine de petits sanctuaires qui témoignent à travers les cultes pratiqués de la distribution de groupes sociaux dans un espace largement ouvert. L'espace a enregistré le temps. Ainsi, guidé par le terrain, l'archéologue a la ressource d'aller plus loin, en faisant cette fois appel aux objets découverts et surtout aux témoignages écrits, des inscriptions et des sources littéraires, où le passé se dessine souvent sous des formes plus explicites et vient finalement rejoindre, à travers le livre, le passé de notre propre culture et de notre vie personnelle. La parole est maintenant à M. Bernard Potier, linguiste, délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour la lecture de son discours intitulé « Les mémoires du présent ».
Parler du passé, c'est nécessairement considérer le vaste domaine du temps. Il est certain que les temps du physicien, du poète, du théologien, du philosophe, de l'artiste entraînent la réflexion dans des voies très variées et parfois contradictoires. Des milliers de pages ont été écrites sur ce sujet depuis des siècles, et de nos jours, le temps est le sujet de nombreuses revues spécialisées et le thème de multiples colloques. Nous retiendrons en priorité les traces sémiologiques que l'inconscient des groupes sociaux a laissées au cours des siècles dans les langues. On rencontre d'une part les catégorisations sémantiques manifestées par le lexique et les constructions de la morphosyntaxe, et d'autre part les métaphores langagières qui révèlent des visions particulières du temps. Ce sont des visions du temps qui justifient les appellations de temps linéaire, temps cyclique, temps sinusoïdal, temps ramifié, dont il sera question plus loin. À la différence du scientifique, le linguiste doit retenir le point de vue de l'expérience humaine. Et lorsqu'il envisage le passé, il constate que ce qu'on appelle à tort ou à raison la ligne du temps est ressenti dans les deux directions opposées que les philosophes ont abondamment décrites depuis l'Antiquité grecque et romaine jusqu'aux penseurs modernes et contemporains. Un premier mouvement est dit ascendant, comme l'évoque Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception, qui reconnaît avoir recours à une métaphore. On dit que le temps passe ou s'écoule. On parle du cours du temps. Si le temps est semblable à une rivière, il coule du passé vers le présent et l'avenir. Le présent est la conséquence du passé et l'avenir la conséquence du présent. Un second mouvement est dit descendant, car, selon le même philosophe, vu autrement, le passé est un ancien avenir et un présent récent, le présent un passé prochain et un avenir récent, l'avenir enfin un présent et même un passé à venir. On peut caractériser visuellement ces deux interprétations complémentaires du passé. Dans ce mouvement ascendant, la jeune fille chemine de son passé vers son futur par rapport à l'échelle fixe du temps qui sert de repère. Mais cette jeune fille, prise comme repère fixe à chaque instant, voit chaque élément de son futur, alpha, se transformer continuellement en élément de son passé, oméga, dans un mouvement descendant. Ce cheminement, depuis l'avenir vers le survenant pour arriver au parvenu, est le mécanisme qui crée les conditions d'enrichissement continu de la possibilité du souvenir. Celui-ci représente la réserve immense d'informations constituant le savoir de l'individu qui, au niveau d'une société, est l'origine des lieux de mémoire. Cependant, on relève dans certaines langues africaines et amérindiennes une représentation statique, moins fréquente, du passé, associée à ce qui est connu, s'étant déjà produit, visible, et donc se situant devant les yeux, comme le présente Victor Hugo lorsqu'il dit « Le passé devant lui, plein de voix enfantines, apparaissait, c'est là qu'étaient les feuillantines. » Alors que le futur, caché dans le dos, est considéré comme invisible et inconnu. Ainsi apparaît la question du présent et de l'instant, ou mieux, de l'instant présent, cher aux philosophes. Héraclite, puis Platon, disaient « Jamais rien n'est, mais toujours il devient. » Le devenir est au cœur de la réflexion philosophique sur la nature du présent. On ne peut éviter de citer Bergson. Retenir ce qui n'est déjà plus, anticiper sur ce qui n'est pas encore, voilà donc la première fonction de la conscience. Il n'y aurait pas pour elle de présent si le présent se réduisait à l'instant mathématique. Cet instant n'est que la limite théorique qui sépare le passé de l'avenir. Il peut à la rigueur être conçu, il n'est jamais perçu. Quand nous croyons le surprendre, il est déjà loin de nous. Ce que nous percevons en fait, c'est une certaine épaisseur de durée qui se compose de deux parties, notre passé immédiat et notre avenir imminent. Le linguiste Gustave Guillaume a souligné l'importance de cette dynamique dès 1929. Le présent ainsi composé emporte en soi un cinétisme selon lequel on voit d'instant en instant, dans le présent même, la parcelle du futur, alpha, opérer sa conversion en parcelle de passé, oméga. L'instant T0 pourrait ainsi être figuré par un pic entre deux asymptotes, faisant écho à cette vision de Jean d'Ormesson dans La Douane de mer. Si plein de menaces et d'expériences et d'espérances, l'avenir attend devant nous d'être fauché par un présent mince et tranchant jusqu'à l'inexistence et d'être changé en passé. Cette minceur fait penser au plus petit intervalle de temps théoriquement calculé que les scientifiques considèrent de l'ordre de 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, ce qui nous fait rêver. On ne s'étonnera donc pas de la difficulté qu'ont les langues pour dire cet instant T0, qu'elles élargissent morphologiquement pour le mieux saisir. « Je suis en train de manger. Estoy comiendo. I'm eating. » Le linguiste se trouve confronté à des centaines de langues aux typologies variées, et malgré tout, le sémanticien parvient à repérer des quasi-universaux dans le domaine des grandes dimensions, personne, espace, temps, détermination, quantification, aspect, modalité. À travers les descriptions des langues du monde, le passé est qualifié de « proche », lointain, achevé, descriptif, habituel, récent, éloigné, ponctuel, mythique, gnomique, aoristique, défini, indéfini, d'expérience, du jour même, odiernus, etc. On parle de prétérit, d'aoriste, et formellement du passé simple et du passé composé, termes que nous utiliserons dans cet exposé. Le sujet parlant, dans sa démarche onomasiologique, qui va de la conceptualisation du vouloir dire au choix des signes linguistiques, n'a pas seulement recours aux formes verbales intégrées, comme dans nos langues occidentales. Il utilise judicieusement aux formes verbales, il utilise judicieusement sa boîte à outils morphologique et syntaxique, grâce aux auxiliaires, aux adverbes, aux particules en T posé ou postposé, tout comme le fait le français dans « Il vient tout juste de sortir », sorte de passé récent immédiat en combinant cinq mots de classe grammaticale distincte dont certains expriment l'antériorité, mais sans aucune marque formelle de passé. En ce qui concerne plus précisément les formes et les usages des passés, commençons par lire ce que les auteurs de la grammaire générale et raisonnée, des grammaires de Port-Royal, Arnaud et Lancelot, déclaraient en 1660, faisant écho aux propos déjà formulés un siècle plus tôt par Henri Étienne. Mais parce que dans le passé, on peut marquer que la chose ne vient que d'être faite, ou indéfiniment qu'elle a été faite, de là, il est arrivé que dans la plupart des langues vulgaires, il y a deux sortes de prétérites. L'un qui marque la chose précisément faite, et que pour cela on nomme défini, comme j'ai écrit, j'ai dit, j'ai fait, j'ai dîné, et l'autre qui la marque indéterminément faite, et que pour cela on nomme indéfini ou aoriste, comme j'écrivis, je fis, j'allais, je dînais. Les auteurs précisent ensuite les conditions de l'emploi de l'une et l'autre forme. C'est la fameuse règle des 24 heures qui a fait l'objet de très nombreuses études. L'indéfini ou aoriste ne se dit proprement que d'un temps qui soit au moins éloigné d'un jour de celui auquel nous parlons. Car on dit bien, par exemple, « j'écrivis hier », mais non pas « j'écrivis ce matin » ni « j'écrivis cette nuit ». Au lieu de quoi, il faut dire « j'ai écrit ce matin », »,« j'ai écrit cette nuit ». Cette distinction fondamentale a été reprise par tous les grammairiens des XVIIIe et XIXe siècles qui se copient volontiers entre eux, avec parfois des compléments d'information, comme la validation du passé composé lorsque le cadre temporel auquel se réfère l'événement recouvre encore l'instant de parole. Parmi les auteurs du XVIIIe siècle, citons Pierre Restaud. Quand je dis « j'ai eu la fièvre cette année, ce printemps, ce mois-ci, cette semaine, aujourd'hui », je désigne la vérité des temps, mais ce ne sont pas des temps absolument passés, et il en reste encore quelques parties à écouler. Robert Martin fournit un témoignage historique. Il dit « À partir de 1762, la Gazette de France se met au service du gouvernement français dont elle se fait l'organe officiel. C'est en 1777 que paraît le premier quotidien français, le Journal de Paris. Or, un journal, surtout quotidien, rapporte l'actualité la plus récente. Pour respecter la règle célèbre, le journaliste est contraint de raconter au passé composé. » D'où la sévérité des grammairiens concernant les écrivains. On connaît les sentiments de l'Académie française sur la tragicomédie du Cid. Et l'on sait que, d'autre part, Racine n'a pas non plus été épargné. Dans ses principes généraux et particuliers de la langue française, De Vailly écrit, encore plus d'un siècle après la publication de Phèdre, « Racine n'est pas correct quand il fait dire à Théramène le flot qu'il apporta recule épouvanté. Il aurait fallu qu'il l'a apporté parce que l'action vient de se passer. » Ce lien subjectif avec le passé apparaît dans ce texte allusif de Jean d'Ormesson. Le passé composé est un regard en arrière teinté de mélancolie. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Cette liaison avec la persistance de l'actualité de l'événement, en face de la simple mention de celui-ci, se retrouve dans l'opposition en anglais entre le present perfect, have you seen, écho du présent inclus dans missing, et l'événement imprévu, déconnecté de tout, présenté au prétérit, did you see. Une mention particulière doit être réservée aux éléments de grammaire générale de l'abbé Sicard, membre de l'Académie française. Bien avant les linguistes du XXe siècle, et l'on pense aux travaux d'Émile Benveniste ou de Harald van Risch, l'abbé Sicard utilisait des concepts très modernes. Ainsi, l'importance comme repère de l'instant de la parole, ou des termes relatifs à la situation de communication comme une époque relative à l'énonciation. Et, de même que Destutt Tracy dans ses éléments d'idéologie, il insistait sur l'emploi que l'on fait dans le discours. Toute cette terminologie, instant de parole, énonciation, discours, est abondamment exploité par la recherche contemporaine. Un autre concept intéressant est celui de limite, appliqué au document au déroulement temporel. En 1607, Charles Maupas emploie le mot « terme ». Si on ne cote nul terme, vient l'indéfini. Le roi a obtenu victoire de ses ennemis, puis leur a pardonné. Mais si l'on assigne quelques certains termes, vient en service défini. L'an 1590, le roi obtint victoire de ses ennemis. Et l'auteur remarque que ce prétérit convient bien mieux aux récits d'histoire et contes de fables. Pour indiquer les limites aspectuelles, l'abbé Girard, en 1747, a déjà recours à un usage métaphorique précis du mot « borne ». Ces périodes sont plus ou moins longues selon les bornes qu'on leur fixe. En 1767, Nicolas Beauzée se réfère à une portion de temps bornée de toutes parts, ce qui fait penser à la notion d'intervalle. En 1798, l'abbé Sicard parle de « distance quelconque circonscrite entre deux bornes ». Ces mots passeront ensuite dans le langage de l'analyse mathématique, semble-t-il au XIXe siècle, et sont utilisés par des linguistes topologues contemporains comme Jean-Pierre Desclés. Déjà dans Arnaud et Lancelot, la rigueur du français quant à l'emploi des temps du passé est bien mise en valeur. Notre langue est si exacte dans la propriété des expressions qu'elle ne souffre aucune exception en ceci, quoique les Espagnols et les Italiens confondent quelquefois ces deux prétérites, les prenant l'un pour l'autre. Il est vrai que César Houdin, dans sa grammaire espagnole expliquée en français, avouait « Je vous avertis en passant que les Espagnols ne sont pas si exacts observateurs de ces deux prétérites que les Français, car bien souvent, ils usent du défini au lieu de l'indéfini. » Et de citer « Yo vi esta mañana al señor N. » « J'ai vu ce matin le Seigneur N. » Donc, un prétérit en espagnol pour un événement qui a lieu le matin même. C'est ici qu'apparaît une règle fondée non plus sur une chronologie objective comme celle des 24 heures, mais sur un degré de subjectivité à l'initiative du locuteur, et on peut alors parler de chronopsychologie. La distinction entre un fait détaché du présent et un fait qui lui est relié est en fait conservé en espagnol, mais le curseur de délimitation peut fortement se déplacer. Le grammairien Giligaya, évoquant un événement vieux de 3 ans, cite l'exemple suivant. « Mi padre murió hace 3 años. » Mon père mourut il y a 3 ans, si on se limite à la simple information. « Mi padre ha muerto hace 3 años. » Mon père est mort il y a 3 ans, si le côté affectif est mis en évidence. Il nous reste à considérer l'imparfait, qui implique une vision de présent d'un événement passé. Resto offre la formulation suivante. L'imparfait marque le passé avec rapport au présent et fait connaître qu'une chose était présente dans un temps passé. C'est pourquoi cette forme apparaît spontanément dans l'évocation d'un souvenir, comme dans cet extrait de Gisèle Halimi. Je me souviens très bien des réactions du tribunal quand je m'avançais à la barre. Avec mes 20 ans, je les intriguais, on me toisait de haut en bas, on m'accueillait avec sourire amusé, etc. On sait également que le présent peut, lorsque le contexte s'y prête, s'appliquer au passé. Je me suis endormi sur un petit mur, je me suis réveillé en sursaut, et qu'est-ce que je vois ? Des gendarmes à vélo à 2 pas. Elle s'attriolait. Nous voici donc déjà avec 4 formes fondamentales disponibles pour le locuteur qui veut exprimer un entier événementiel dans le passé. Un passé inséré dans le passé. Je la pris dans mes bras et elle sanglota sur mon épaule, le Jean de Bonnetto. Un passé relié au présent d'énonciation. J'ai couru vers elle, l'ai prise dans mes bras. J'ai littéralement recueilli son dernier souffle, Dubrovski. Un présent vu dans le passé. Moi, c'est Marie que j'embrassais. Je l'ai beaucoup embrassée. Je la prenais dans mes bras. Je la serrais contre moi, d'Ormesson. Et un présent d'expérience passée. Parfois, le soir, je la prends dans mes bras et nous dansons au sein de la radio, Claude Mauriac. Soit donc, un passé passé, j'écrivis une lettre. Un passé présent, j'ai écrit une lettre. Un présent passé, j'écrivais une lettre. Et un présent ouvert, quand j'écris une lettre. On peut ajouter en espagnol un passé présent résultatif, qui possède 2 auxiliaires et peut ainsi différencier à partir de « he escrito una carta », j'ai écrit une lettre, 2 degrés d'intégration. La carta que he escrito et la carta que tengo escrita, ce qui rappelle la concordance de la relative française dans « la lettre que j'ai écrite ». Cette gradation est également sensible en français lorsque l'on dit successivement, par exemple, dans un reportage sportif, « il a gagné la partie, il a la partie gagnée », comme le fait l'espagnol, qui se retrouve avec 3 degrés d'actualisation du passé récent. Pour « il a perdu la guerre », on peut dire « ha perdido la guerra »,« tiene perdida la guerra »,« tiene la guerra perdida ». L'historien qui raconte des événements se déroulant au XVe siècle, pourra dire, se référant à un épisode de 1492, et en fonction des saisies objectives qu'il opère, quand Christophe Colomb découvrit l'Amérique, savait-il vers quoi il voguait, André Gide ? Colomb a découvert l'Amérique en partant d'idées fausses, Ernest Renan. Mais le locuteur peut se transporter à un moment antérieur à l'instant d'énonciation, pris comme nouveau repère, et envisager mentalement, à travers ce changement d'origine, l'événement passé à partir de points de vue distribués sur l'échelle du temps. On peut de la sorte parler au futur d'un événement du passé. Christophe Colomb découvrira l'Amérique à la fin du siècle. Christophe Colomb découvrira l'Amérique 10 ans plus tard. Christophe Colomb allait bientôt découvrir l'Amérique. Christophe Colomb se trompe et il découvre l'Amérique d'Ormesson. Et ainsi de suite. Considérons à présent quelques représentations visuelles, métaphoriques, associées au temps. L'écoulement du temps, du passé vers le futur, en vision ascendante, est souvent symbolisé par le sablier. Il figure par exemple sur la couverture du numéro hors-série de La Recherche consacré au temps en avril 2001. C'est pourquoi Marc Fumaroli, parcourant l'histoire littéraire des modernes aux anciens, intitule son ouvrage « Le sablier renversé ». Mais on retrouve l'interprétation descendante du temps lorsqu'on considère le grain de sable supérieur qui traverse le goulet central et devient un grain de sable passé. Le présent étroit peut aussi évoquer l'image d'une écluse. Le futur ne glissera plus dans l'écluse du présent pour devenir passé, Philippe Forest. Dans cette composition artistique, les deux éventails sont reliés par une poignée de crémone qui peut symboliser le passage étroit de la droite vers la gauche, du futur vers le passé. Pour l'humain, le passé remémoré est soumis aux caprices de l'imaginaire et l'imaginaire anticipé a ses racines dans le passé. C'est-à-dire qu'il y a interpénétration des connaissances acquises et des pensées projetées, cette mixité pouvant être figurée par le symbole du Tao. Le yin bleu de l'imaginaire ne peut se libérer totalement du passé et le yang orange du passé se teinte d'un peu d'imaginaire. Entre les deux, la ligne fictive ondulante du présent. On pourrait penser à une symétrie entre le passé et le futur sur la foi d'expressions telles que « hier avant-hier, demain après-demain ». L'incertitude du souvenir du passé, le déjà, est-elle de même nature que l'incertitude de l'imagination du futur, le pas encore ? Dans un numéro de la revue Langage de 1981 sur le temps grammatical, Robert Martin insiste avec raison sur les différences fondamentales entre le futur qui échappe à la certitude et le passé qui est un acquis irréversible. Il développe le concept de futur ramifié, celui des mondes possibles, dont certains éléments privilégiés forment les attentes, l'expectatio de saint Augustin. D'où la possibilité d'une représentation symétrique, mais cette homologie est trompeuse. Le passé s'enrichit constamment dans différentes directions, avec certaines branches qui s'amenuisent ou s'interrompent dans l'oubli, et d'autres qui se renforcent définitivement, comme l'indélébile proustien ou l'obsession pathologique. Ces comportements justifieraient le concept de passé ramifié. Par contre, l'arborescence du futur est totalement théorique. À la différence des physiciens, l'humaniste peut être en attente d'éléments du futur, mais il ne peut en être sûr. Un avion s'écrase sur la coupole, nous disparaissons tous et c'est bien dommage. Parler des mémoires du présent, c'est penser que le présent est le cadre obligatoire de nos pensées. Un être est tout entier présent à tout moment, car le passé comme le futur est un mode d'être du présent, affirme Yankelevitch, reprenant cette idée force de saint Augustin, selon laquelle le passé est le souvenir actuel du temps écoulé et le futur l'attente actuelle du temps à venir. Revenons à Bergson. Sans cette survivance du passé dans le présent, il n'y aurait pas de durée, mais seulement de l'instantanéité. Pour le physicien qui travaille à l'échelle de l'univers, le présent peut disparaître et un voyage dans le futur semble possible. Pour nous autres humains, seul le présent nous est accessible. Il est clair que le passé multiforme et évolutif suppose une présentification qui n'est jamais une représentation à l'identique. Julien Gracq explicite ce mécanisme. Le souvenir qu'on garde d'une œuvre de fiction de longue haleine, d'un roman lu ou relu pour la dernière fois, il y a des années, après tout le travail de simplification, de recomposition, de fusion, de rééquilibrage qu'entraînent les lésions de la mémoire fournirait, si la matière n'en était par nature aussi évasive, un sujet d'étude très intéressant. Nos expériences passées s'accumulent, se télescopent et restent disponibles dans l'attente de possibles résurrections. L'image prototypique que nous nous sommes faites de l'homme est sous-jacente aux multiples réalisations qu'en donnent les scientifiques ou les artistes de l'homme reconstitué de Néandertal, aux sculptures réductrices de Giacometti et aux peintures visionnaires de Picasso. Le mot « rêve » du français montre l'affinité entre le rêve pendant le sommeil, où le jeu passif voit des éléments du passé transfigurés, la Belle et la Bête, nouvelle version, et le rêve éveillé, celui de l'hôtel du futur, où le jeu actif élabore des images issues d'un passé reconstruit à partir d'éléments délocalisés et refinalisés. En résumé, si on laisse le futur hors de portée de l'humain, son voir présent actualise son savoir du passé, lequel alimente son revoir des rêves involontaires et ses prévoir des rêves volontaires. Tel serait l'environnement multiple et dynamique qui permettrait à chacun de nous, lorsqu'il le désire, de faire apparaître à la conscience un présent continuellement renouvelé et enrichi. La question « Le passé est-il passé ?» était un piège. Nous espérons avoir contribué à le déjouer. Merci.